Bonsoir à toutes et à tous. Nous recevons aujourd'hui dans les studios donc l'équipe du Paradis du Créateur, des artisans et commerçants qui viennent à Blois présenter leur création 5 rue des Trois Marchands. Donc nous recevons en studio Maud. Franck, bonjour Maud.
Bonjour, bonjour à tous.
Jürgen.
Bonjour.
Et Clotilde.
Bonjour.
Alors vous allez nous parler chacun un petit peu de votre travail. Et puis on va peut-être aussi ajouter un paramètre, c'est que vous n'êtes pas que tous les trois dans cette boutique. C'est qu'il va falloir représenter un petit peu les autres. Jürgen, vu que tu es un petit peu à l'origine, toi et Gérard du projet, je te demanderai un petit peu de présenter le reste de l'équipe. Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais donc nous présenter ce qu'est ce paradis du créateur à Blois?
Alors derrière ce titre assez kitsch, se déguise entre guillemets, ce titre sont tout simplement 9 créateurs qui s'exposent, qui sont partiellement, pas uniquement, mais beaucoup de gens qui viennent, qui exposent dans notre boutique en ce moment, sont installés aussi en plus de leur recherche. Dans le Loir-et-Cher. Donc, c'est-à-dire, on propose de l'artisanat, de la création.
Principalement de la création. Vous êtes principalement tous des artisans.
Tout à fait, tout à fait. Alors, dans des statuts certainement un peu divers et différents, c'est-à-dire les gens sont tous professionnels, bien sûr, mais ils ont un statut, voilà, la question du statut, c'est assez compliqué, surtout pour moi en ce moment.
c'est ton actu. Alors, on entend qu'il y a un petit accent, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours, toi, Jürgen? Comment t'en es venu à ce métier? Alors, de costumier? Tu te revendiques costumier, alors moi j'ai envie de m'imaginer, ça me parle en tant que, je sais pas, costumier de théâtre ou de mise en scène de comédie ou ce genre de truc. Est-ce que c'est un rapport avec ça?
Oui, c'est tout à fait un rapport avec ça. Alors, c'est-à-dire, j'ai fait une formation aux arts appliqués de Vienne, en Autriche, je suis autrichien d'origine. Il y a 25 ans, et j'ai eu des designers assez illustres en fait qui étaient mes professeurs.
Tu peux les citer?
Oui, donc c'était Vivienne Westwood au premier, et c'était après Marc Bohan, et après c'était Helmut Lang. Donc trois personnalités assez diverses et différentes en fait. Bon voilà, surtout Madame Westwood, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup influencé la scène de la mode en fait, et à cette époque quand elle était mon prof, en fait l'histoire du vêtement, du costume était très important pour elle, pour ses propres créations, et du coup elle nous a transmis en tant qu'étudiants vraiment pour moi ça marchait, ce virus de l'histoire du vêtement et du costume. Et après...
Tu étais jeune, c'était pendant tes études?
Oui.
T'avais une vingtaine d'années, moins de 20 ans?
Entre 20 et 25 ans,
ouais,
tout à fait. Donc ça fait déjà maintenant... J'ai fait pile il y a 20 ans mon diplôme, donc aujourd'hui on dit un master en mode et stylisme, voilà. Et j'ai après tourné un peu vers, même beaucoup même, j'ai cherché du travail et j'ai trouvé en tant qu'habilleur tout simplement dans des petits théâtres à Vienne. Qui appartenait à des grands théâtres, et du coup, fil à l'aiguille, j'ai trouvé un chemin vers la création des costumes du théâtre aussi, surtout. J'ai découvert les métiers du temps, le théâtre, en travaillant en habilleur, assistant costumier, à la fin costumier pour des étudiants en fait, du conservatoire de Vienne.
Ça devait être, j'imagine, stimulant quand on est jeune et qu'on découvre un petit peu le milieu du spectacle, de demander à un artiste, à un auteur de mode, de faire ses créations, du coup. Que les gens puissent, au-delà de défiler, voir directement et les exposer directement à un public pendant une représentation, ça doit être stimulant.
Oui, le travail est différent par rapport à la mode. Dans la mode, on crée des collections, on travaille avec l'industrie, avec plein de gens créatifs, bien sûr, aussi, qui viennent de toute horizon. Dans le théâtre, c'est pareil, sauf que là, on a vraiment un travail à faire, une dimension souvent historique en plus, à respecter quand on aborde un texte de Molière, par exemple, où on se consacre à un thème complètement futuriste. Ça dépend de l'histoire, en fait, et là, la créativité n'est pas... on n'a pas de limite, on n'a pas de limite. Ça dépend de l'histoire qu'on veut transmettre, ça dépend un texte, le metteur en scène et un concept visuel aussi.
vous travaillez ensemble, ça j'imagine, en amont, tu proposes et présentes ton travail, il y a une fiche technique, il y a des choses, des codes à respecter. Quoi.
Oui, tout à fait. C'est un vrai travail d'équipe. Aussi, déjà au sein de cette unité entre metteur en scène, décorateur, costumier, quand c'est vraiment réalisé avec des grands moyens aussi, faut dire ça aussi.
Tu as déjà travaillé sur des grosses structures
En tant qu'assistant costumier, en tout cas, oui. Ouais. J'ai travaillé au Book Theatre, par exemple, qui est en fait l'équivalent de la Comédie Française à Vienne, en tant qu'assistant costumier pour les Pacantes et deux autres productions au sein de la même maison qui était un petit théâtre à côté des trucs très modernes, contemporains, des écrivains.
Donc t'as un nom, toi, en Autriche
Non, pas tant que ça, mais...
Vous êtes nombreux, j'imagine, c'est un petit peu... Le pays, enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est un pays représentatif du milieu théâtral ou du design textile ou de ce genre de trucs?
Alors, au niveau
peut-être pas autant qu'à Paris, mais...
Au niveau du théâtre, Vienne a quand même un statut, mais voilà, c'est très ciblé, ça dépend quand même des différents, comment on dit, Kulturkreis, c'est-à-dire, c'est dédié à au langage en fait, et le théâtre ici en France, c'est quand même un style différent par rapport au théâtre allemand, par rapport à un théâtre à l'italienne, en Italie, pas à l'italienne, mais ou encore aussi en Angleterre. Donc il y a des différentes écoles de théâtre et au niveau en Allemagne, en tout cas l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, ces trois pays qui sont liés à cause de leur langage, Vienne a quand même un certain statut. Oui,
donc est-ce qu'on peut retrouver ton style dans tes créations actuelles? Le style dans lequel tu as évolué plus
très
jeune.
Très largement inspiré du costume quand même. Oui, c'est vrai, tu as des pièces qui sont très inspirées.
Ça c'est toujours ma part. En effet, c'est quelque chose qui ne m'a jamais réellement quitté. Donc j'ai travaillé assez longtemps pour le théâtre et depuis 2 ans, encore une fois, j'essaie à retrouver la mode. Et c'est clair que, comme Maud vient de le dire, c'est une grande inspiration, c'est vraiment une base de l'histoire du vêtement, du costume, ce qui est vraiment d'une richesse incroyable. Et en plus, je trouve très important, très intéressant, en tout cas aussi pour moi, mais je pense aussi, ça parle aussi d'un patrimoine vestimentaire en fait. C'est-à-dire, j'ai découvert moi personnellement, tout simplement grâce à des photos de ma grand-mère en 1910, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle portait, les chapeaux, les espèces de robes et tous ces trucs complètement bizarres pour nos yeux d'aujourd'hui. Et,
tu t'en es donc servi grâce pour à ça, influencer ton style, ton art. D'accord. Ouais. Ok. On peut peut-être passer le relais à Maud, qu'on connaît bien dans les studios parce que tu présentes donc une émission. Le dimanche soir, quand même.
Ah bon? Oui.
Fais pas semblant. Est-ce que tu peux nous parler déjà pour représenter l'association des effets sonores auquel tu fais partie? Donc ça, c'est le pont entre la boutique et la radio. Tu peux nous
un dimanche par mois, on présente avec Michael, juste à côté de moi, une émission qui s'appelle Intime Mix et donc dans laquelle pendant 1 heure, on se répond avec des morceaux intimes de notre choix selon un thème qu'on a défini, qu'on s'est amusé à définir.
Alors, toi, tu es designer textile.
Designer textile sérigraphe.
Sérigraphe. Est-ce que tu peux, pareil, nous présenter un petit peu ton métier?
Alors moi, mon métier, je l'ai appris, j'ai été formée à Paris, dans le 12e arrondissement, dans une petite école privée, et j'ai appris le design textile pendant 5 ans là-bas.
Qu'est-ce que le design textile en fait?
Le design textile, en fait, c'est l'art de créer un motif. Voilà, de créer à la base un dessin géométrique ou floral, de le styliser et ensuite de le dupliquer afin de créer un motif.
Alors toi, du coup, tu as une double veste, comme on dit, c'est-à-dire que c'est tu es designer textile, mais à côté de ça, sérigraphe. Donc que tu crées, après, tu vas utiliser le support tissu pour faire tes créations.
C'est ça, pour ne dépendre de personne. Je me suis spécialisée dans la sérigraphie pour
Alors, qu'est-ce que la sérigraphie?
Avoir le plaisir de tout faire de A à Z. La sérigraphie, c'est une technique ancestrale d'impression. Voilà, c'est...
Ancestrale, c'est à partir de combien de millénaires?
Tu m'en demandes trop, là. j'ai su, mais je ne sais plus. Ouais, non, c'est une vieille technique d'impression. On imprime au cadre. C'est comme un pochoir, quoi. Voilà, Et on applique une encre et avec une racle, on passe l'encre dans le cadre et voilà, on imprime.
D'accord.
Et ainsi de suite,
Est-ce qu'on a peut-être un site internet plus démonstratif de ton métier ou
c'est
ça,
www.maudefranc.fr et puis dans lesquels, c'est un site internet dans lequel on voit tous mes accessoires de décoration sérigraphiés. Parce que je crée des coussins, des rideaux sur mesure qu'on me demande, des panneaux japonais, des essuie-mains, enfin voilà.
Tout ce qui est en tissu déjà.
Tout l'univers de la
Est-ce
déco.
Est-ce qu'il t'arrive de faire des impressions autres que le tissu ?
Quand
le
on
papier.
Me le demande, là bientôt, oui, je vais faire des impressions papier pour des cartes de vœux. Voilà, tout simplement. Donc oui, quand on me le demande, je le fais.
Donc on peut te faire faire des choses sur mesure,
c'est
donc,
possible,
comme tu viens de le dire.
Voilà, on me fait faire des choses sur mesure. On choisit dans ma collection de motifs que j'ai créés, avec des coloris que j'ai déjà créés ou alors que j'adapte à l'intérieur des gens. Parce que ben, voilà, j'imagine que dans
de
les
leur
coloris...
Maison, hein.
Oui, à l'intérieur. À l'intérieur des gens. Ouais. Et donc,
à l'intérieur
donc, voilà.
De chez les gens.
Et à côté de ça, j'ai créé il y a 2 ans une collection de collants sérigraphiés sous la marque Gambi.
Gambi.
Donc, ouais,
pourquoi
voilà.
Gambi?
Gambi, c'est de l'argot en fait. Gambiller, ça veut dire danser. Donc voilà, les gambis, c'est les gambettes.
C'est les gambettes, c'est l'argot.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Alors les collants, on les retrouve à la boutique?
Bah oui, c'est ça, on les retrouve à la boutique. Okay. Avec des nouveaux coloris et il y a 2 nouveaux motifs là.
D'accord. Qu'est-ce qui... Alors, tu me parlais de rideaux, de coussins, de collants.
Oui.
Qu'est-ce que tu exposes à la boutique ?
Alors là, il y aura les coussins, il y aura des essuie-mains, des petites pochettes aussi. La sérigraphie que je viens d'apporter cette semaine.
Donc là, c'est brand news.
Ouais, c'est ça. Elles sont toutes nouvelles, celles-là, puis elles sont uniques. Donc, dépêchez-vous.
Des petites pochettes...
Avec le pan doré ou argenté.
D'accord.
Tu les as vues.
Des petites pochettes pour...
Bah,
pour mettre ce qu'on
des
veut.
Petites pochettes pour mettre ce qu'on veut,
des
quoi.
Des trucs de girl
Bah, ou pas.
Ou pas. Alors,
les affaires des filles.
Les affaires de filles.
C'est ce qu'ils prennent.
Moi, j'imagine cette petite pochette, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans?
Toi, tu pourrais mettre ta brosse à dents, par exemple.
La
tu vois,
USB
pour partir
pour
en voyage.
Studio.
Par exemple, voilà, tu peux mettre
ça peut être une
des petits stylos. Des petits stylos. Oui, tu peux mettre
je rappelle que l'unisex est très moderne en ce moment. Les gens comme Vivienne West, tout le font sur les collections. Hein.
Ouais.
Donc,
c'est vrai.
C'est bien de le rappeler voilà. Parce que les gens, des fois, ne savent pas trop sur quel pied danser. Tu vois, on ne sait pas quoi acheter, quelle couleur, quelle forme.
On peut acheter ce qui nous plaît. Ouais.
Et donc, Clotilde.
Ouais.
Salut, Clotilde.
Salut.
Alors, toi, que je prenne quelques repères, ouais. Tu es créatrice
oui.
Lunetière opticienne.
Ouais, c'est ça. Donc. Je rejoins Maud lorsqu'elle dit qu'elle veut dépendre de personne et qu'elle veut créer son produit de A à Z. Et moi, c'est exactement la même chose, mais dans les lunettes. Donc, à la base, je suis opticienne.
Ça.
Mais donc, voilà. Mais j'ai toujours voulu créer, toujours depuis mes études, créer mes montures sur mesure. Et donc, depuis 6 mois, sous la marque Audacieux, je crée ma monture en fonction du visage de mon client et de son ordonnance. Et
sur mesure.
Ouais, produit unique également. Et
comment tu écris Audacieux ?
Audacieux,
c'est ton site internet, ça.
C'est, oui, www.audacieux.net.
D'accord.
Et Audacieux, A-U-D-A-C-I-E-U-X, comme être audacieux.
D'accord.
Voilà.
Création de monture,
ouais.
Sur mesure.
Sur mesure, avec les verres à la vue et aussi la prise en charge sécurité sociale et mutuelle si besoin.
Ah, voilà. T'as un partenaire costaud là.
Ouais, je sais pas si c'est un partenaire, mais ça permet quand même d'avoir une petite prise en charge et de pouvoir avoir le même service que si on va chez un opticien traditionnel. Voilà, pour pas que le fait d'avoir du sur-mesure, ça soit vraiment une différence par rapport à un opticien traditionnel qui achète ses montures. Donc
les gens ne se replient pas forcément par obligation, je sais pas, d'esthétique ou de mode, de faire des lentilles. On vient encore maintenant demander des montures. Et choisir les coloris, choisir la forme, on peut te demander de n'importe quelle forme.
Oui, tout à fait. En fait, je dessine la forme de la monture de mon client en fonction de son visage. Donc, c'est-à-dire que mon client valide sur plan ses
critères.
Ses dessins
non.
Et ses critères. Oui, tout à fait. Et ce qui est chouette, ce que j'adore, c'est que je partage avec mon client. C'est-à-dire que je fais une première proposition, on en discute. c'est un réel échange, c'est ce que j'aime, hein. La relation humaine aujourd'hui, c'est, je trouve qu'il faut vraiment le mettre en avant. Et comme c'est un produit unique, et ben mon client, il peut mettre la patte à ses lunettes et me dire oui, mais moi c'est vrai que j'aimerais telle chose ou et on échange ensemble et moi je lui dis ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable et comme ça on crée ensemble sa monture.
Donc il t'arrive de dire forcément avec tes j'imagine qu'il faut avoir des critères quand même assez objectifs pour inviter le client à reconnaître que par exemple, une paire de lunettes rondes n'irait pas sur sa forme de tête, quoi.
Ouais, alors...
C'est pas subjectif, c'est être au contraire, c'est réussir à convaincre de l'objectivité de ta création à toi.
En fait, il suffit d'avoir les bons arguments et de toute façon, je pense que lorsqu'on guide un client, il faut avoir de l'argument. On ne peut pas lui dire c'est comme si parce que c'est comme si, ça n'a aucun sens.
Oui, c'est pas de la dictature. Quoi.
Non, il faut être vraiment ouvert d'esprit et ne pas mettre aussi les personnes dans des boîtes. Quelqu'un qui a un visage rond, par exemple, peut très bien porter du rond, mais ça peut être très joli. Ça dépend du style, de sa personnalité, de ce qu'il veut faire ressentir, parce que ben, forcément, les lunettes, on les porte. Et donc, ça reflète quelque chose aux autres, mais aussi à nous-mêmes quand on se regarde dans le miroir. Donc, il faut que... Voilà, c'est vraiment beaucoup de temps au niveau de la conception.
Oui, j'imagine que, excuse-moi, ça doit te prendre du temps de poser un entretien, du coup, et faire un état psychologique de ton client pour se rendre compte que voilà, pas trop de couleurs pour celui-ci et de l'exotisme pour celui-là.
Ouais, alors il n'y a pas besoin d'un entretien psychologique, hein,
Cerner la personne.
Mais il faut cerner la personne et poser les bonnes questions.
C'est
mais je pense que les personnes qui veulent aussi du sur-mesure sont, et un produit unique créé pour la personne, sont aussi prêtes à se livrer en fait et ont envie de dire ce dont elles veulent. Donc c'est un échange qui est tout à fait en fait simple parce que on se fait confiance l'un et l'autre.
Il faut être honnête, de toute façon, c'est pour
tout à fait
une cause commune, donc j'imagine que
tout à fait.
Tu donnes le meilleur de toi.
Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est la marque Audacieux pour avoir ses propres lunettes qui sont faites de façon artisanale à Blois.
Ton laboratoire, enfin ton atelier est à Blois.
Mon atelier est à Blois. Ouais, je suis blésoise, tout à fait. Et mon atelier est à Blois. Et donc j'ai un atelier de fabrication où on peut venir me voir, mais aussi je vais à domicile. Donc je vais aussi souvent sur Paris, Orléans.
Est-ce que tu peux parler de l'endroit, de l'adresse postale du coup où on peut venir te voir?
Bien sûr. Donc c'est 15 quai Henri Chavigny. Donc il n'y a pas du tout d'enseigne par contre. Donc après il faut aller sur mon site internet, donc www.audacieux.net, et vous aurez mes coordonnées pour m'appeler et pour qu'on puisse prendre un rendez-vous pour que je vous fasse visiter l'atelier ou qu'on voit pour de la conception. Ouais.
Est-ce que toi, Jürgen, tu peux faire du sur-mesure à la demande?
Oui, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire, là, on parle tout de suite, chacun, Maud, comme Clotilde, comme moi aussi, et représentant pour tous les autres créateurs qui sont déjà dans la boutique, mais aussi au-delà. C'est-à-dire, les artisans, souvent, peuvent quand même justement créer aussi un article, un produit personnalisé. Donc ça, c'est quand même une grande qualité et la grande différence par rapport à un produit industriel.
Ça ne te dérange pas? On puisse te demander,
non,
j'aimerais
quelque chose. Au contraire, c'est-à-dire ça peut, il y a toujours, attention, hein, c'est, bien sûr ça met en valeur et ça son propre travail, mais aussi ça met surtout en valeur aussi les clients, le client. C'est très important de personnaliser aujourd'hui quelque chose. On est tous dans la même démarche, je pense. Ça nous réunit aussi par rapport à toute cette diversification de tous les produits qui peuvent exister. Mais
diversité, c'est bien aussi.
La diversité, en effet. Donc, on est vraiment dans cette démarche de montrer une diversité et de se projeter sur le client aussi et de rentrer dans son univers et de le soutenir.
Oui, Clotilde, du coup.
Et puis comme on fabrique, on n'a pas du tout de série, on peut faire du sur-mesure, on peut donner le petit détail que le client souhaite. C'est l'avantage de...
Tu factures pas ton travail à l'heure, du coup.
Non, du coup, non. Non. Ou en tout cas, sinon, je suis pas au SMIC à l'heure, mais...
Ou au SMIC à 2 euros.
Ouais, là, on revoit ce qui est prévu normalement par la loi, mais non, c'est pas possible.
J'imagine, bon, c'est de la création, c'est naturel d'être un petit peu plus cher vu que t'es sur mesure de la création, mais en moyenne, tes montures peuvent être dans quelle fourchette de prix ?
En moyenne, on part de... Pour la première conception où vraiment on fait du personnalisé, où le client choisit ce qu'on échange, on est à 860 euros la monture. Et après, il faut rajouter les verres. Après, bien entendu, j'ai des formes, des modèles types que je peux mettre juste sur mesure. Et donc là, j'ai pas tout le travail de conception. Et là, on est à 500 euros la monture sur mesure, hein, quand
donc
même.
Donc ça peut commencer de 150 à 500 euros, c'est ça ?
Non, de 500 à...
Ouais, parce que...
Non, 150, c'est pas possible. Non, c'est pas possible.
Non, mais
pour
tu
être...
peux... Ah oui, genre prendre un PVC, faire le...
La ah non, mais il faut quand même...
Brut, mettre les verres dedans.
Ouais.
Tu veux pas prendre ça.
Non.
Là, c'est la
provoque. Un peu de répub.
Non, par contre, le confort... Non. Le confort est là, et puis aussi le matériau, c'est quand même... en contact avec la peau, donc il ne faut pas rigoler là-dessus, il faut que ça soit réglo. Ouais. Merci.
Et alors Maude, tu me disais en off tout à l'heure, tu proposes aussi, c'est important qu'on en parle, des ateliers.
Oui, c'est
tu
ça.
Fais, voilà. Donc le travail de la boutique, c'est une chose, tu arrives à diversifier un petit peu ton activité avec d'autres choses.
Depuis que je vis à Blois depuis 3 ans, je développe dans pas mal de structures des ateliers de sérigraphie. Donc après, ça peut être des centres culturels ou des écoles primaires, collèges, lycées. Et après, dans mon atelier aussi, je propose de former les gens à la sérigraphie. Donc c'est déjà arrivé que j'ai à l'atelier plusieurs personnes qui voulaient apprendre les rudiments de la sérigraphie. Et voilà, je les ai... pris sous mon aile quelques jours.
À Blois, t'as travaillé où, par exemple ?
À Blois, j'ai travaillé dans beaucoup de structures, pas mal de structures, du coup.
Tu peux en parler, lycée, peut-être que les gens connaissent plus ou moins, pour pouvoir se situer un peu.
Delaunay, l'année dernière, le collège
Saint-Charles. Parce que donc, c'est un lycée professionnel.
Bah ouais. Non, c'était bien. J'avais deux classes, on a travaillé pendant quelques mois ensemble. Le collège Saint-Charles. Il y a pas mal de structures comme Charcot, l'espace Charcot. Il y a Croix-Chevalier en ce moment.
De la sape, c'est-à-dire comment on dit,
on customise des vêtements là avec des ados de Croix-Chevalier. Ouais.
Ça doit plaire, j'imagine.
Ouais, c'est sympa, on s'amuse bien. Ouais, c'est sympa.
Et t'as oublié aussi de parler des créations de Dreamcatcher.
Bah oui, ça c'est vrai ça. Oui, alors depuis 2 ans, je crée des petites séries d'attrape-rêves. Donc avec des crochets que je récupère Un attrape-rêve, c'est un... Tout le monde sait ce que c'est, je crois, au bout d'un moment. Surtout en ce moment, parce qu'apparemment, c'est devenu super tendance.
Là, on est à l'apogée de la tendance de l'attrape-rêve. Là. Ouais. Ça peut...
Ah,
c'est bien, ça marche en ce moment.
C'est bien, ça marche en ce moment. Donc l'attrape-rêve, c'est amérindien. Tout le monde sait, voilà, c'est un tissage avec des plumes qui, à la base, permettent de faire fuir les cauchemars et d'attraper les rêves. Voilà.
Les mauvais esprits.
Oui, aussi, les mauvais esprits.
Donc là, c'est pareil, même dans ça, il faut quand même souligner que c'est pas de l'industriel. Il y a quelques plumes achetées pour des concepts artistiques.
Parce que ça, c'est quand on me demande des couleurs particulières, à moins d'avoir un perroquet sous la main.
Mais tu fais principalement... Tu fais donc principalement de la vraie plume.
Oui, de la plume trouvée à la campagne. Ce qu'il y a. des faisans, des buses.
Des autruches.
Oui, des autruches, parce qu'on est allé à une ferme. On a trouvé une ferme où il y avait
Vendôme,
des autruches.
La ferme où je l'ai vue.
Lantenay ? Non, Lunay.
C'est Romorantin, ça.
Mince. Lunay ?
Ouais, il y a une ferme d'autruches là-bas. D'ailleurs, la dame va lâcher son parc. Il y a des lamas aussi. Des émeux.
Donc là, j'ai trouvé plein de plumes d'émeux magnifiques.
Ça, c'est extraordinaire de pouvoir travailler avec ces...
Oui, c'est
avec
le but,
textures,
c'est d'en trouver à droite, à gauche. Et voilà, et donc j'ai ma belle-mère et tout le monde qui s'est remis au crochet. Enfin, ta mère, oui, Josiane. Pardon.
Alors, tout ce joli beau monde se retrouve donc à la boutique éphémère 5 rue des Trois Marchands, après la rue du Saint-Lubin. Je sais que donc là, c'est au service d'une boutique, mais vous avez une association. C'est pourquoi vous êtes aussi ici. Vous pourriez peut-être, ou tu pourrais, Jürgen, nous présenter l'association.
Alors, c'est pas très compliqué. On a fondé une association avec mon partenaire Gérard Cotel, qui lui aussi enseignement et au magasin. C'est-à-dire, ça nous permet tout simplement, officiellement et au niveau structure, il faut que ça soit très carré. On a un numéro serré, du coup, et du coup, on peut aussi. Cette association, elle a comme but aussi de simplement soutenir des artisans. Surtout peut-être des artisans qui ont un problème justement de trouver un statut adéquat et qui ne rentrent pas forcément dans le moule en première ligne, mais au même temps donc ça nous permet aussi de faire ponctuellement des boutiques éphémères.
C'est ça, si un artisan a vraiment et pas déclaré avec un statut spécifique, ouais, vous prenez sous l'aile avec le statut, ouais, de l'association et pouvez donc l'aider à se produire et,
tout à, fait,
et oui, à donner ça, de la visibilité à son, voilà, travail.
Cette fameuse visibilité qui est très importante. Mmh. Ouais, quand même.
Et elle apporte un nom, cette association, ou vous ne la mettez peut-être pas forcément
c'est
en avant ?
C'est le même nom, c'est le Paradis,
du Créateur.
Donc c'est le nom de l'association, le Paradis, ouais, des Créateurs. Alors, on est, vous êtes tous les trois dans ce studio, mais vous disiez que vous étiez neuf. Est-ce qu'un d'entre vous, ou peut-être quelqu'un pourrait se désigner pour représenter et parler des autres artisans.
Oui, alors il y a, vraiment on a des très belles créations toute
diversité.
J'ai un problème avec ce mot.
Ouais. C'est la bien, diversité. C'est la radio scolaire, voilà. Du coup on va c'est pouvoir, tous les enfants vont pouvoir y aller.
Alors, on a par exemple, donc on a déjà maintenant vu avec Maud, on a vu Clotilde, il y a trois autres créatrices qui font de la mode féminine, notamment par exemple Christine de Hupsch avec son label Nulle part autre pareil. Donc c'est une créatrice, couturière, créatrice qui a vécu longtemps à Versailles, mais depuis quelques années elle s'est installée à Cheverny, donc elle est vraiment de la région maintenant. Mmh. Pareil pour une autre créatrice qui s'appelle Clélia Chénaud. Elle vient de la Normandie plutôt, mais ça fait des années qu'elle est installée aussi au sud de Blois, à côté de Cheverny, à Contres, voilà, par là. Nous avons une autre créatrice qui fait de la mode féminine, mais aussi des accessoires, des bijoux aussi, surtout assez spectaculaires. C'est une doyenne pour moi. Elle a un certain âge, mais elle a un grand vécu aussi. Elle a vécu longtemps au Canada. Elle a été rédactrice de mode, et voilà, styliste et tout. Voilà, c'est assez flamboyant.
Ça ne peut que renforcer son talent, j'imagine.
Tout à fait. Elle s'appelle Silou Selkin et elle est d'origine du Mans. Donc voilà, une personne qui n'est pas installée dans le Loir-et-Cher, comme aussi par exemple un Jean-Philippe Périsset qui, sous son nom d'artiste, Bénis, mmh, il fait des drôles de tableaux en toute taille, de trois tailles différentes, on va dire, avec des poissons colorés dans tous les sens et avec des petits jeux de mots qui sont très drôles. Donc c'est quelque chose de beaux-arts, voilà, des tableaux, mais c'est pas le grand art, mais c'est quand même très positif, très drôle. Les gens aiment beaucoup ça. Alors, on a aussi Anita Ginis, au pied du jour, son label. C'est une créatrice, mm-hmm, qui vient de se mettre à son compte en tant qu'abat-jourier. C'est-à-dire, elle crée des abat-jours, ce qui est un métier quand même très pointu. Un métier très pointu et un peu méconnu, toujours lié à quelque chose aussi très cher, etc. C'est vrai, c'est tout un métier. Elle est extrêmement précieuse comme créatrice. Il faut l'être aussi pour ce type de travail. C'est vraiment méticuleux jusqu'au bout. On a encore aussi un autre type de créateur de luminaires. Là, c'est vraiment un très beau travail, extrêmement bien vu et bien réalisé et très contemporain surtout. Il s'appelle Alain Pelletier. Il est installé à côté de Bourges et il a une esthétique incroyable. Il y a un sens, quand on voit aussi ses photos sur sa page Facebook, il associe souvent ses créations qui sont vraiment en verre ou en LED, de toutes petites lampes LED très fines et tout est soudé très finement. Et il associe ça avec une matière un peu brute comme la pierre ou encore aussi avec du bois. Donc c'est quelque chose d'extrêmement joli. Voilà. Et donc, je pense que là j'ai fait
les designers textiles féminins, les voilà. Lunettes de tissu, ouais. Les luminaires.
Luminaires. J'ai fait les tours. Voilà. Et moi-même, moi je propose une mode masculine pour contrebalancer tout ça. C'est-à-dire mode masculine qui peut être encore un peu méconnu dans cette démarche artisanale de proposer. Je propose des gilets, des chemises, des pantalons, des caleçons. Voilà, c'est quelque chose qui devrait sortir, qui doit sortir un peu de l'ordinaire aussi en même temps et qui, pareil, c'est une création pièce unique.
Il y a des tableaux aussi.
Jean-Philippe Périssé.
Ouais, d'accord.
Ouais, avec les poissons.
Les poissons colorés.
Voilà. Un petit poisson. Ok, je crois qu'on a réussi à faire le tour. Je rappelle le concept de la boutique éphémère, le paradis des créateurs.
Ouvert jusqu'au 31.
Ouvert donc jusqu'au 31 décembre au 5 rue des Trois Marchands à Blois, pour ceux qui connaissent, c'est la continuité de la rue
Saint-Lubin.
Du Saint-Lubin. Juste avant la
quartier
des Arts, avant la pharmacie sur la droite. Il y a pas mal de créateurs aussi, parapluies, chapeaux.
On est très bien entouré par là.
Et tout ceci, bien entendu, vous pouvez donc soutenir le concept, le projet de ces créations sur les réseaux sociaux, le www.facebook. Qu'il y a un site internet du paradis du créateur?
C'est une page Facebook tout simple.
Pour l'instant, c'est Facebook.
On est dessus. Ouais.
D'accord, le paradis du créateur. Merci d'avoir répondu à l'invitation.
Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup.
N'hésitez pas à venir faire vos petites emplettes, venir voir ce qui peut s'y faire, tous ces jolis créateurs dans cette boutique pour les fêtes. Je pense que vous ne serez vraiment pas déçus. Il y a beaucoup de belles choses. Merci et bravo. Et à très bientôt dans cette boutique.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.